à tous. Aujourd'hui, je vais être encore seule parce que Marie-Claire est occupée. Nous sommes donc réunis au nom de l'ACAT. Ce mouvement contre la torture se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, la première, où tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Là, à partir de la revue, j'ai envie de vous partager ce que la non-violence veut dire. La non-violence, ce n'est pas la passivité. Elle suppose de lutter efficacement tout en respectant son adversaire. Mais pour bien en saisir le sens, il est important de définir ce qu'est la violence et ce que veut dire la refuser. Donc Christian Renoux nous partage « Choisir la non-violence, c'est dire non à la violence. Le terme est volontairement négatif. Quand Gandhi l'a utilisé en avril 1919, pour la première fois, il manifestait son refus des violences qu'avait commises quelqu'un de ses partisans en réaction au massacre perpétré en Inde par des soldats anglais contre des manifestants gandhiens pacifiques. Dire non à la violence, refuser d'utiliser des moyens violents, même quand il s'agit de réagir face à une agression, à une violence subie ou à une situation d'injustice, reste toujours aussi révolutionnaire qu'au temps de Gandhi. La violence est un phénomène humain, polymorphe, qu'il est difficile de définir au premier abord. Mais on peut se référer utilement à la définition de l'OMS. Cette définition, la voici. La violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces en l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. En plus de délimiter les contours de ce qu'est la violence en excluant les phénomènes naturels destructeurs, en distinguant ces différentes natures et ces différents degrés, la définition que je viens de donner permet aussi de comprendre que la violence n'est pas l'utilisation de la force, mais plutôt l'utilisation de la force physique dans l'intention de nuire. Si cette précision doit être soulignée, c'est parce que la non-violence entend elle aussi utiliser la force et les rapports de force, sinon elle serait sans moyens et sans utilité. Mais elle les emploie sans intention de nuire à l'adversaire. C'est là la différence. Sans intention de nuire à l'adversaire. Gandhi utilisait d'ailleurs le terme indien « Satyagraha » pour définir son action, ce qui peut se traduire par « la force de la vérité ». Complétons aussi cette définition de l'OMS en reprenant la distinction de John Galting qu'il pose entre la violence individuelle ou personnelle, les violences structurelles et les violences culturelles. Pour cela, Il utilise l'image de la mer ou des couches sédimentaires. La violence individuelle est celle d'une personne donnée. Elle est la partie la plus visible de la violence, celle qui est immédiatement perceptible, et l'image, un peu comme la surface de la mer avec son écume. Mais pour comprendre cette violence, il faut la relier à la violence structurelle qui, elle, n'est pas visible ni accessible immédiatement. Ce sont les courants qui agitent la mer sous les vagues de surface. La deuxième et la troisième, les violences structurelles. Elles émanent des structures politiques, sociales et économiques injustes qui organisent nos sociétés nationales et internationales. Ce sont ces violences qui sont principalement à l'origine des actions des individus. Si l'on descend plus profondément encore, l'on rencontre les violences culturelles qui sont des courants plus forts encore. Ces violences culturelles justifient les violences structurelles et enracinent dans des idéologies et des croyances. Si l'on prend l'exemple des violences domestiques, le père de famille qui bat ses enfants, ou sa femme, le fait parce que les structures politiques et socio-économiques lui laissent la possibilité de le faire, absence des lois répressives contre ces violences, absence de moyens de protection efficaces, cette violence structurelle n'existe que parce que des éléments de culture la justifient. Culture machiste un peu. Et patriarcale, qui considère que le mari a le droit de punir ses enfants et sa femme du fait de sa supériorité masculine. Oui, ça relève vraiment d'une certaine culture. Cette culture machiste repose sur des représentations négatives de la femme des enfants, qui ont par exemple les sources religieuses ou archaïques liées au culte de la force physique. On voit donc l'importance de développer une culture de non-violence pour pouvoir changer les structures d'oppression et d'injustice, tout en luttant contre les violences individuelles, et cela dans tous les pays. Le respect absolu de la personne humaine en toutes circonstances est la pierre d'angle et l'étalon de cette culture de non-violence. Ce respect absolu doit être conçu comme intégrant le respect de l'environnement et la bienveillance envers tout ce qui vit, comme le demandait déjà Gandhi. Alors les évangiles témoignent aussi, au contraire, d'une non-violence active, lucide, résolue. La non-violence de Jésus n'est pas une attitude naturelle, elle est le fruit d'une conversion. Car Jésus lui-même en fait l'expérience face à la femme cananéenne dans Saint-Marc. Celui-ci appartient à un peuple ennemi des Juifs. Or, cette femme se jette aux pieds de Jésus et lui demande de guérir sa fille, qui est tourmentée par un démon. Mais Jésus la rejette. Sa tendance spontanée est de ne pas répondre à ses supplications. Il dit : je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme insiste. On connaît l'évangile. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Cette répartie est féroce et cruelle dans les représentations courantes de l'époque, car le chien et le porc étaient l'animal le plus méprisé. Comparer la fille malade de cette pauvre femme éplorée à un chien, c'est presque une insulte. Mais la femme insulte encore. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais des petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle endosse aussi l'insulte pour montrer sa souffrance au lieu de répondre du tac au tac par une autre insulte. Et là, Jésus bascule. Il se laisse toucher par la parole de cette femme. Lui, Jésus, se laisse convertir par cette femme étrangère. Il surmonte son mépris, il maîtrise sa propre violence, car Jésus est comme nous et c'est un homme. C'est la non-violence de la femme étrangère qui contamine Jésus, qui déclenche sa non-violence, et à l'heure même, la fille est guérie. Il faut en effet aller jusqu'au bout dans l'interprétation pour saisir à quel point la non-violence de Jésus nous concerne. Car si Jésus avait été imperméable à tout ce qui est sombre et ténébreux dans le cœur de l'homme, sa non-violence serait purement divine et donc pour nous inaccessible. Mais Jésus se révèle dans ce texte avec toute son humanité et avec toute sa divinité. Et il nous montre un chemin de non-violence à notre portée. La non-violence n'est pas l'absence de violence, elle est une violence maîtrisée, domestiquée, muselée. La non-violence, c'est la violence qui a trouvé son maître Jésus. Lui franchira ensuite un seuil dans la non-violence active lorsqu'il chassera les marchands du temple devant les abus de commerce mêlés à la pratique culturelle. Il se pose un geste fort et symbolique, mais d'une audace inouïe aussi. C'est pour ça que Jésus, retourné par cette femme ennemie, que Jésus nous offre une pédagogie de la non-violence, fruit d'une victoire sur sa propre violence, qui peut être la nôtre aussi. La non-violence nous conduit à des engagements courageux pour la justice et la paix, sans jamais menacer la dignité de l'autre. C'est ainsi que nous pouvons aimer nos ennemis. Eh bien, nous avons repris l'habitude de nos réunions et la prochaine aura lieu le 8 octobre à Rochève, au presbytère, 20h30, comme d'habitude. Tous, vous y êtes cordialement invités.